du dimanche 1er décembre au mardi 3 décembre 2002. Une arrivée attendue. Des prisonniers observent depuis leur cellule la longue queue qui fait face aux deux officiers de l'émigration malien. Les coups de tampon rythment les entrées et sorties de ce bureau sans fenêtre. Allongés ou assis, ils regardent d'un œil résigné ceux qui ont la liberté de voyager, liberté de choisir de s'enfermer dans un train plusieurs jours. Kaïs est la première halte malienne. Nous commençons à nous imprégner de cette nouvelle culture à travers le thé. Le rituel des trois services m'est enseigné par Joseph dans le train. Les ingrédients sont les mêmes qu'au Sénégal. Thé vert, sucre, eau. Une deuxième théière vient compléter la tiraille. Le thé n'est pas autant bouilli. Il est en quelque sorte plus light. Le petit réchaud fonctionne à plein gaz. Le temps de préparation permet de discuter. Une fois qu'il est prêt, nous le servons à ceux qui passent dans le couloir. Deux fois, la théière renverse son contenu bouillant et sucré sur le sol. Les zones de turbulence ferroviaire ne l'épargnent pas toujours. De nouvelles têtes sont apparues dans les wagons. D'autres nous ont quittés au poste frontière. La vie dans ce train est un condensé de la vie humaine sur une courte période. Les rencontres, les séparations, les déceptions, les moments d'émerveillement, de fatigue, d'épuisement. Le temps d'un trajet, nous perdons la notion du temps qui nous échappe totalement. Le train s'arrête brusquement. Une rumeur se propage rapidement. Il est tombé en panne. Mon voisin dans le couloir m'explique. Quand le train tombe en panne, on ne sait jamais combien de temps cela peut durer. S'ils peuvent réparer sur place, c'est relativement rapide. Mais s'il faut faire venir une pièce ou une personne depuis Dakar ou Bamako, alors cela peut prendre beaucoup plus de temps. Le train s'étant arrêté au beau milieu de la savane, je me demande comment il pourra repartir. Deux heures plus tard, nous nous remettons en route. Nous arrivons à Bamako après avoir passé 52 heures dans un wagon. Les tandems, relégués à la classe marchandise, ont également fait bon voyage. Première réalité malienne. Le café au lait sucré est de 25% plus cher que la boisson identique au Sénégal. Le Mali n'ayant aucune côte, les produits tels que le Nescafé et le lait concentré sucré, les éléments de base du café qu'ils servent, sont importés, donc plus coûteux. Nous rejoignons l'Union malienne des aveugles, UMAV, peu après le petit déjeuner. Une dizaine d'enseignants et membres du bureau nous réservent un accueil chaleureux. L'Ansina, surveillant général et président de l'association sportive, s'adresse à nous avec les mots suivants. Messieurs Jean-Christophe et Diego, honorables hôtes du projet, raconte-moi la terre, soyez les bienvenus au panthéon de la philanthropie en terre malienne. Vous vous êtes fait champion de la sublimation du cœur au grand bonheur des non-voyants. Vous vous êtes fait champion du rayonnement de la conscience des plus nobles de la société. Enfin, vous vous êtes fait champion de cette figure emblématique qu'est le sphinx, illustrant de la plus belle manière la corrélation entre soma et psyché, entre l'intellect et le physique. Pour ainsi dire, messieurs, hommes de grand cœur, tous les acquis à cette cause grandiose qu'est la promotion sportive des non-voyants savent apprécier en vous la farouche volonté d'édifier chez cette catégorie trois piliers essentiels, à savoir développer les compensations et les suppléances, aiguiser le goût de l'effort, renforcer le désir de vaincre l'obstacle. Chers messieurs, il n'en faut pas plus pour forcer l'admiration, mais encore et surtout pour ouvrir la porte de l'insertion. Puisse Dieu couvrir de grâce toutes vos entreprises. Amen. Les élèves prennent sa suite en entonnant des chants et dansent sur le thème de la cécité. Les paroles décrivent la réalité quotidienne d'un aveugle, préviennent des risques qui peuvent entraîner la perte de la vue et insistent sur les accomplissements toujours possibles. Le trachome est un danger. C'est pourquoi nous sommes là. Attention aux vilaines mouches, lavons tous nos visages. L'Ansina nous conduit vers notre chambre. C'est là que dormaient Roland et Fred, ceux qui vous ont précédés. Nous continuons à rouler dans leurs traces. Partis autour du monde en tandem, World Tour Tandem, originaires de l'Ain, ils avaient partagé leur expérience avec nous. Au Sénégal, nous nous étions déjà arrêtés dans un centre où ils étaient passés. La chambre est située entre les deux internats, garçons et filles sont séparés. Nous mangeons avec les élèves dans le grand réfectoire. Une complicité naît spontanément avec chacun d'entre eux. Les plus jeunes ont 8-10 ans. Les plus âgés ont pour certains plus de 30 ans. L'Institut des jeunes aveugles du Mali, INAM, a ouvert ses portes en 1973. C'est la première école spécialisée apparue en Afrique de l'Ouest. Il sert de référence à de nombreux établissements des pays alentours. L'Institut forme et accompagne les élèves jusqu'au DEF, diplôme d'études fondamentales, équivalent de notre brevet des collèges ou de l'ex-BEPC. Leur taux de réussite les a amenés à faire face à une demande croissante d'inscription venant d'élèves voyants. Depuis lors, voyants, malvoyants et non-voyants sont mélangés pour suivre les cours. Ils s'entraident pour réussir le DEF. Plusieurs continuent ensuite afin d'obtenir le bac et suivre des études supérieures. La plupart de ces derniers tentent l'école normale supérieure ou l'école nationale d'administration. Les principaux débouchés sont professeurs ou assistants sociaux. La fonction publique est le meilleur et souvent le seul employeur possible. Dans la cour de récréation, nombreux sont ceux qui jouent au foot. Les jambes partent dans une direction, changent de cap, se croisent à la recherche du ballon. Il n'est pas toujours évident de distinguer ceux qui voient de ceux qui ne voient pas. Cette école est pour nous un magnifique exemple d'intégration. Chaque élève partage avec ses camarades sa vision, ou à défaut, sa vision des choses. Dans les salles de classe, les uns écrivent en noir, les autres en braille. Tous posent des questions, désireux de comprendre. Les élèves se soumettent à la discipline afin de satisfaire leur envie d'apprendre. Étions-nous aussi motivés il y a quelques années ? Assurément non. Les plus âgés sont généralement sans activité. Ils se retrouvent dans les locaux pour prendre le thé, discuter, passer le temps. Sina Yoko et Draman nous sont présentés par l'Ansina. Ils seront vos copilotes. Ils sont tous les deux âgés de plus de 30 ans. Ils nous racontent leurs exploits lors des derniers JAPFAF. Sina Yoko est le capitaine de l'équipe de Torball. Aucun doute, le sport les anime. Peu après, ils nous prennent à part. Quelque peu gênés, ils nous demandent: combien allez-vous nous payer pour participer à cette expédition ? Jean-Christophe et moi nous regardons surpris. En Mauritanie, Abdoul et Ousmane nous avaient demandé à plusieurs reprises des encouragements financiers. Nous n'avions pas cédé. Cette fois, nous faisons face à une demande de rémunération. Pris au dépourvu, nous répondons tant bien que mal. Nous avons pédalé en France, en Espagne, au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal, sans jamais offrir de compensation financière. Ce périple, en tandem, n'aura aucune retombée financière, ni pour vous, ni pour nous. Vous êtes libre d'y participer, dans la mesure où vous voulez vivre cette aventure. C'est à vous d'en profiter pour en tirer un maximum de bénéfices. Nous surviendrons à vos besoins durant cette période, afin qu'elle ne vous coûte rien, mais nous ne pourrons faire plus. La déception se lit sur leur visage. Sina Yoko enchaîne. « Vous ne comprenez pas. J'ai une femme et deux enfants. Je peux partir 2 semaines, mais je dois pouvoir leur rapporter quelque chose. » Nous sommes mal à l'aise. Jean-Christophe ne dit plus rien. La situation de Sina Yoko est certes délicate, mais qu'y faire ? Allons-nous le payer pour nous accompagner ? Tout travail mérite salaire. Peut-on considérer que nous lui proposons du travail ? Ni eux ni nous ne sommes obligés de faire du tandem. En France, nous pensions que le tandem permettrait des rencontres, des moments de partage spontané. Nous pensions pouvoir faire découvrir à des non-voyants et malvoyants la richesse des voyages, le goût de l'aventure. Nous n'allons pas commencer à payer pour remplir nos objectifs. J'essaye de lui faire comprendre que c'est une action bénévole. Nous-mêmes ne gagnons pas d'argent avec ce projet. Nous avons travaillé dur pendant 1 an, en plus de nos études, pour réussir à venir jusqu'ici. Notre seule rémunération est de vous rencontrer, vous et tous ceux avec qui nous avons fait du tandem. Si vous décidez de partager cette aventure, vous devez accepter d'y participer bénévolement. La réponse de Sina Yoko est sans appel. Vous ne comprenez pas nos besoins. Nous nous retrouvons tous les deux. Jean-Christophe a été marqué par cette discussion. Il me reproche de ne pas être plus conciliant. Les propos de Sinayoko lui posent question. C'est une question culturelle. Nous avons le luxe de connaître la différence entre travail et vacances. Ce n'est pas leur cas. Toute activité doit leur apporter une rémunération. C'est vrai. Nous nous retrouvons face à un problème culturel. Nous n'avions jamais envisagé de telles réactions avant de partir. Nous offrons 2 semaines à tandem tout frais payés. Nous ne pensions pas que certains demanderaient plus. Nous supposions qu'ils réagiraient comme nous aurions réagi. Ce n'est pas le cas. Que faire? Les payer? Devons-nous accepter ce principe dans la mesure où nous avons à nous adapter à la réalité locale? N'est-ce pas simplement céder à la facilité? Tous les deux sont sans activité en ce moment. Ce périple à tandem ne les prive a priori d'aucun revenu. Seulement, faire du tandem est considéré comme un effort. Et selon eux, tout effort mérite récompense. Jusque-là, nous sommes d'accord. La nuance est que la récompense n'est pas toujours financière. Chaque coup de pédale nous procure la satisfaction difficilement quantifiable d'avancer et de partager. C'est ce que nous souhaitons transmettre. Actuellement, leurs priorités sont différentes des nôtres. Je n'arrive pas à accepter cette idée, les payer. Nous ne sommes ni une entreprise, ni une ONG. Nous ne vivons pas de ce projet. Sa dimension gratuite peut en être la limite, mais constitue aussi sa force. Certains auraient peut-être besoin d'une rémunération. Dans ce cas, nous devons être clairs. Cela ne rentre pas dans le cadre du projet. J'explique à Jean-Christophe ce que j'en pense. Ce n'est pas la bonne problématique. Nous ne sommes pas venus pour rémunérer nos copilotes. Nous pouvons parfaitement changer notre façon de faire, mais je crois que l'on va dénaturer ce que nous avons entrepris. Ils sont libres de nous suivre ou d'y renoncer. L'argent ne doit pas corrompre ce que nous sommes venus faire. Nous passons plusieurs heures à débattre de cette question délicate. Puis, ensemble, nous prenons la décision de conserver la dimension gratuite du projet. Jean-Christophe est beaucoup plus mesuré que je ne le suis. Il écoute beaucoup et s'exprime peu quand nous sommes à plusieurs. Quand nous nous retrouvons à deux, nous ne sommes pas toujours d'accord. J'ai souvent un avis plus tranché, je suis plus impatient. L'un et l'autre, nous nous complétons. Nos désaccords ne nous ont jamais empêchés d'avancer conjointement. Au contraire, ils nous permettent de nous dépasser. Tous les deux, nous savons que nous devons parler d'une même voix. Nous ne pouvons engager d'autres personnes dans ce projet si nous-mêmes ne sommes pas d'accord et convaincus de ce que nous faisons. Notre entente est un élément primordial. Nous avons chacun une réaction propre face à certains aspects pratiques du voyage. Cependant, les grandes lignes, les objectifs, le déroulement ont longuement été discutés, puis détaillés dans nos dossiers de présentation lors de la préparation du projet. Si nous sommes ici à Bamako, ce n'est pas par hasard. Dans les moments difficiles, comme celui que nous venons de vivre, ces éléments prennent le dessus et nous guident dans les décisions à prendre. Nous sommes à la veille du départ à tandem. Dans la soirée, Sinayoko nous annonce sa décision de ne pas participer au voyage. Nous envisageons de reporter la date du départ, le temps de trouver un autre copilote. À minuit, je croise Clé dehors. Comme je lui dis, « Anitié ?»« Bonjour en Bambara », il me répond. « Tu es l'un des deux Français venus faire du tandem ?»« Oui, je m'appelle Diego, comment t'appelles-tu »« Clé, c'est moi qui remplace Sinayoko. Je pars avec vous demain matin. » »« Tu veux dire dans quelques heures ?»« Oui. » »« Je n'en reviens pas. » Nous n'avons même pas eu à chercher notre nouveau copilote. Il s'est présenté à nous au hasard d'une promenade nocturne dans la cour de l'école. Nous l'invitons à prendre le thé dans notre chambre. Nous faisons rapidement connaissance. J'apprends qu'il est musicien, percussionniste. Il est prêt à emmener un djembé sur le tandem. Ensemble, nous terminons les préparatifs. Les sacoches sont chargées, accrochées sur les tandems. Les drapeaux français et maliens sont hissés. La nuit est courte.